Bonjour et bienvenue au balado « Mieux connaître, mieux choisir », une initiative du Carrefour Jeunesse Emploi et d'Accès Travail Portneuf, vous permettant de découvrir plusieurs métiers du marché du travail.
Bonjour, bienvenue au podcast « Mieux connaître, mieux choisir ». Aujourd'hui, on reçoit Maxime Lebel, vendeur de véhicules récréatifs. Bonjour Maxime, merci d'avoir accepté l'invitation.
Bonjour, merci de m'avoir invité. Très content d'être avec vous aujourd'hui.
Puis, je suis également là, accompagnée de ma collègue Vicky.
Bonjour. Donc, d'emblée, on aimerait commencer avec une première question. Une question assez simple. En fait, on aimerait savoir en quoi consiste ton métier, puis plus par rapport à la vision que les gens peuvent avoir quand tu dis que tu es vendeur de véhicules récréatifs versus la réalité. Tu sais, qu'est-ce que tu fais vraiment?
C'est sûr que tout le monde pense que c'est un plaisir tout le temps, qu'on a toujours du fun parce que on vend les choses qu'on aime, c'est des jouets, c'est des bébelles. Fait que, t'sais, le monde qui vient chez nous, c'est pas une obligation, c'est un désir. Cependant, il y a beaucoup d'autres contraintes. Faut être capable, bien sûr, de s'occuper du client, de trouver ses besoins pour être capable d'y vendre la bonne chose. Puis par la suite, c'est nous, que le vendeur, qui tient la main pour avoir accès aux autres départements. Puis s'il y a un problème dans un département ou un autre, c'est au vendeur à faire le lien entre le client et le département pour que ça fonctionne. Fait qu'il y a plusieurs tâches à faire. Oui, c'est agréable, mais il faut être sérieux, il faut être à l'ordre.
Puis en termes de vente, est-ce qu'on parle autant de véhicules usagés et neufs? Puis quand on dit véhicules récréatifs, là, ça inclut quoi?
En fait, les véhicules récréatifs, ensuite, on a des pontons, des motos marines. Après ça, on a des VTT, on a des motos. On a aussi les Spider, qu'on appelle. C'est les nouvelles motos trois roues qui sont de plus en plus populaires, très, très stables, très fiables aussi. Puis, il y en a plusieurs gammes dans les Spider. Puis, bien sûr, notre gros créneau, nous, chez Dion Sport, c'est le skidoo. On vend beaucoup, beaucoup, beaucoup de skidoo dans notre région.
Puis, on aimerait savoir un petit peu plus en détail là, à quoi ça ressemble une journée type là, quand tu rentres au travail. Puis, c'est quoi les défis quotidiens aussi qui sont associés?
Bien, en fait, la première chose à faire en rentrant le matin, c'est d'ouvrir les courriels, aller voir les nouvelles demandes Internet qui sont arrivées, les traiter selon ce qu'ils ont besoin. Des fois, on va les appeler. Des fois, c'est une réponse seulement par courriel. D'autres fois, malheureusement, c'est un client qui n'est pas content. Alors, à ce moment-là, bien, il y a une suite d'éléments qu'il faut faire pour rendre le client satisfait, soit aller chercher son véhicule, le faire réparer, le retourner. La gestion se fait à partir de mon bureau. Puis, il faut aussi répondre à chaque client qui arrive dans la salle de montre.
Puis au niveau des défis, est-ce que des fois, il y a des choses là, qui sont plus difficiles ou plus ardues à gérer?
Oui, il y en a toujours. Cette année, c'est encore pire que jamais. Cette année, il y a des problèmes d'approvisionnement dans plusieurs accessoires, dans des pièces importantes. J'ai beaucoup, beaucoup de skidoo qui sont arrivés depuis le mois d'août. Puis il me manque encore soit le cadran, soit la boîte électronique, ou soit ce qu'on appelle le throttle, là, c'est le pouce pour donner du gaz. Donc, il faut gérer ça. Les clients ne sont pas satisfaits, mais c'est pas de notre faute à nous. Mais quand ils arrivent chez nous, c'est après nous autres qui sont fâchés. Fait que ça, c'est un bout vraiment, vraiment plat qu'on ne vivait pas avant. Mais il y avait d'autres petits moments qui étaient moins agréables aussi. Ce n'est pas toujours le fun, mais on réussit quand même à s'organiser, même dans la situation qu'on vit présentement.
C'est ça, vous êtes un peu l'intermédiaire entre le client, l'acheteur finalement, puis le fournisseur. Là. Fait que c'est vers vous qu'ils se tournent pour quand ils ont des questions, des problèmes. Fait que justement, c'est ça, c'est vous qui recevez ça finalement.
C'est ça. En fait, si le client arrive, il est content, c'est moi qui le reçois. Puis s'il n'est pas content, c'est moi qui le reçois aussi. C'est au vendeur à tempérer la situation dans le but de comprendre ce qu'il faut qu'on fasse pour aider le client.
Dans le cadre de ton travail, avec qui tu es amené à collaborer, que ce soit au quotidien ou que ce soit moins souvent qu'au quotidien, mettons? Là?
On n'a pas le choix de collaborer avec toute l'équipe, en fait. C'est un travail d'équipe parce que si moi, je peux vendre tant de véhicules par année, Bien, c'est sûr que c'est grâce à mon équipe de pièces qui est là, grâce à l'équipe de service. Ça ne se fait pas tout seul. Puis, autant que moi, j'ai besoin d'eux, bien, moi, il faut que je travaille pour eux aussi pour qu'il y ait une roue qui tourne.
Puis à l'externe, est-ce qu'il y a des collaborateurs aussi qui sont importants?
Je dirais que oui. De plus en plus, là, avec les véhicules d'échange, là, tout à l'heure, on a parlé, voir si on vendait beaucoup d'usagers. Depuis le début du COVID, très difficile de racheter de l'usager puisque le marché est tellement fort dans l'usager que les clients vendent leur véhicule la journée même, puis souvent à très meilleur prix que ce qu'on peut leur offrir. Alors, souvent, ce qu'on va faire, c'est quand c'est un véhicule qui ne rentre pas dans notre créneau, on va faire affaire avec un autre distributeur ou un autre détaillant, on va le téléphoner, on a des contacts là-dedans. Lui, il va être en mesure de donner un prix plus intéressant pour nous permettre de faire la vente.
Puis, est-ce que tu considères que ton travail est principalement un travail individuel ou un travail d'équipe?
C'est un travail d'équipe, sans aucun doute. Sans aucun
Même
doute.
si tu as à gérer là, des clients de façon individuelle, il y a quand même tout un arrimage à faire autour du service, là, que c'est vraiment un travail d'équipe.
Oui, j'ai pas le choix parce que si je reçois mon client, on a un problème avec les pièces ou avec le service. Oui, je le reçois dans mon bureau, je vais traiter la demande, je vais trouver une solution, puis ensuite je vais aller travailler avec l'autre. Puis l'autre, il faut qu'il soit de pair avec moi parce que sinon, j'ai travaillé pour rien. Tu sais, j'ai pas le choix. Oui, il y a une partie qui se fait seule, mais le reste se fait avec tout le monde.
C'est vraiment comme une chaîne, finalement, là. Vous êtes tous un peu dépendants l'un de l'autre, même si vous faites des tâches individuelles.
Exactement.
Excusez. En termes d'horaire, là, ça ressemble à quoi, justement, ton horaire? Combien d'heures tu fais durant la semaine? Ça se place comment?
Ben, il y a une semaine, on fait 38, l'autre semaine, on fait 40. En fait, c'est parce qu'on a des journées qui finissent plus tard. On a le samedi midi, le samedi jusqu'à midi aussi. Puis on le fait en alternance. Fait que la semaine qu'on a faite le samedi, la semaine d'après, on a une journée de congé. C'est pour ça que ça vient changer les heures un peu. Là, je dirais, c'est un horaire un petit peu plus agréable que ça a déjà été. Avant le COVID, on était ouvert tout le temps jusqu'à 9 h le jeudi, 9 h le vendredi, plus le samedi. Maintenant, avec le COVID, les heures ont diminué. Fait que, c'est un peu moins difficile à gérer avec une famille de 4 enfants, mettons.
Donc, faut être quand même ouvert là, à faire des week-ends ou des soirs là, également pour aller rejoindre évidemment là, une certaine clientèle aussi là.
Effectivement, puis j'ai travaillé dans plusieurs domaines de la vente en tant que conseiller, puis peu importe le domaine dans la vente, il faut toujours être prêt à faire des soirs et des fins de semaine. Ça vient avec, c'est là que le monde a du temps, puis c'est là que le monde sont prêts. La semaine du lundi au vendredi, de 8 à 5, la plupart travaillent. Fait que nous, on travaille sur nos dossiers, mais si on veut faire des ventes, souvent, ça va être dans ces périodes-là. Malgré qu'avec le COVID, maintenant, ça se fait par Internet, ça se fait par téléphone, le monde réserve à l'avance.
Puis, ça m'amène une question, en fait, en termes de processus de vente, là. C'est quoi le processus? Exemple, moi, je rentre chez Dion Sport, puis je veux acheter un skidoo. Bon, mais c'est quoi? Tu sais, de A à Z, c'est quoi le processus que tu dois faire, tu sais, que ce soit avec le client ou en arrière, tu sais, quand tu fais avancer ton dossier, justement?
La première chose, bien sûr, je vais me présenter dans la salle de montre. On va discuter un petit peu en regardant les véhicules. Par la suite, je vais t'inviter à venir dans mon bureau. Je vais m'informer si tu as déjà eu une motoneige ou un skidoo, savoir de où on part. Après ça, je vais discuter avec toi pour savoir qu'est-ce que tu veux en faire exactement de ce véhicule-là. As-tu un chalet? Veux-tu faire du sentier? À force de te poser des questions sur ton plan, parce que la personne qui vient, elle a un plan, elle veut tel genre de véhicule, puis elle veut faire telle chose. Mais c'est pas tous les véhicules qui font tout. Alors, on part de ça, on part de son plan, puis avec ça, je vais être capable de déterminer lequel véhicule qui va correspondre le mieux à ses besoins. Après ça, si je l'ai dans la salle de montre, on va se relever, on va aller faire le tour, et on explique pourquoi que ce véhicule-là correspond à ce qu'on s'est parlé dans le bureau plus tôt.
Donc, il y a toute une évaluation de besoins aussi à faire avec le client. Donc, il faut être attentif à ses besoins, tout ça, ses attentes, puis de voir quel véhicule peut répondre à ce besoin-là finalement.
Oui, mais il faut pas être fermé non plus, parce que j'en ai des clients qui sont venus une année, ils voulaient acheter tel genre de véhicule, c'était pas le véhicule qu'ils avaient besoin. Je leur ai proposé l'autre chose, il voulait avoir ce véhicule. J'ai vendu le véhicule désiré et je peux vous dire que dans la même saison, ils sont revenus me voir et on a changé le véhicule.
Oui.
Faut les laisser aller. T'sais, si c'est un, il y en a un, c'est un rêve, il voulait un backcountry, mais il ne fait que du sentier. C'est pas la bonne machine pour lui, mais c'était son rêve d'avoir ça. Il l'a fait.
Il faut laisser les gens vivre leur expérience.
Oui, moi, je suis là à titre de conseiller. Je prends toute l'information que le client me donne pour le conseiller sur la meilleure chose, mais la dernière décision, c'est lui qui la prend.
Il y a toute une notion de un peu de respect de ce que la personne veut, tout en sachant qu'il y a certains modèles, par exemple, qui pourraient plus lui convenir, mais en même temps, faut respecter qu'est-ce qu'ils veulent. Puis des fois, ils ont leur première idée, puis la première idée, elle change pas.
C'est ça. Ça va avec l'écoute, ça. Je pense que c'est la première qualité là, d'un vendeur. Si on n'est pas à l'écoute puis on veut juste penser à nos poches, bien souvent, on va passer à côté.
Puis, dans un autre ordre d'idée, là, on aimerait ça savoir à quoi ça ressemble ton parcours scolaire et ton parcours professionnel aussi, là, tes expériences de travail.
Bon, le parcours scolaire, en fait, moi, j'ai fait mon secondaire 5. Je demeurais à la TUC. J'ai fait beaucoup d'impro, beaucoup de théâtre. J'étais un gars qui était impliqué dans le domaine des arts. C'est ce qui a fait que j'ai trouvé, avec le temps, une job où je travaillais avec le public puis que j'avais du plaisir. Ensuite, je suis allé faire deux sessions de cégep en exploration théâtrale. Puis là, je me suis rendu compte qu'il y en avait du monde en masse qui voulait en faire, puis il y en avait du monde en masse qui était bon là-dedans. Donc, je me suis retourné vers un cours en vente automobile que j'ai pris à Québec. Dans une école privée. Et par la suite, j'ai été vendre des automobiles, mais ça, c'était loin d'être une question de passion. Pas rester longtemps dans ce domaine-là. C'était beaucoup d'heures d'attente pour le peu de ventes faites. Donc, j'ai changé rapidement.
De ce qu'on comprend, c'est que c'est important aussi, quand on occupe un poste de vendeur, de vendre quelque chose qui nous plaît minimalement aussi, tu sais, d'aller un peu avec nos intérêts.
Oui, parce qu'il va y avoir, des moments plates, pareil comme dans chaque job. Fait que s'il n'y a pas quelque chose qui te fait continuer, quelque chose qui te fait triper dans ce que tu fais, ça ne vaut pas la peine. Moi, dans l'automobile, j'avais aucune passion. J'aimais la vente. J'ai continué dans ce domaine-là par la suite, mais tu sais, j'ai fait des détours aussi. Je suis allé faire un cours en mécanique de véhicules légers, puis je voulais apprendre tout ce qui en était de ces véhicules-là. Alors, ça m'aide aujourd'hui. Je suis capable d'expliquer le véhicule en détail. Le client, il m'appelle, il y a un problème mécanique. Je suis capable de l'aider avant de le transférer au service. Donc, ça m'a donné des connaissances importantes dans mon travail. Puis, après avoir fait ce cours-là, j'ai continué quand même dans la vente parce que je voulais pas travailler dans un garage fermé. Moi, il faut que je travaille avec le public. Puis, j'ai travaillé comme conseiller publicitaire dans une radio. Puis, après ça, j'ai déménagé ici à Saint-Raymond.
Donc, quand même, un parcours assez rempli, hein? On peut dire que quand même, tu as touché à beaucoup de choses. Dans ce que tu as dit, ça m'a évoqué une question. Tu disais que la vente de véhicules d'auto, dans le fond, là, c'était comme beaucoup d'attentes pour le nombre de clients versus qu'est-ce que tu vis en ce moment. Tu dirais que ça serait quoi les principales différences, justement, tu sais, pour une personne qui hésite entre les deux, là, qui dit, moi, je sais pas si je veux vendre des autos ou si je veux vendre des véhicules récréatifs. Ça serait quoi qui distingue, en fait, les deux, principalement?
Moi, je trouve que la grosse différence entre les deux domaines, c'est la façon dont le client va venir chez nous. La plupart du monde dans l'automobile, ils vont acheter une auto selon leurs besoins parce qu'ils sont obligés. Comme moi, je vais être obligé d'acheter une belle van 7 places. Je vais vous dire que je ne l'ai pas magasiné comme si je m'achetais un beau Expédition Extrême, là. T'sais, je l'ai acheté avec ma taille et non avec mon cœur. Ça fait une grosse différence.
C'est vrai que les besoins, des fois, ils peuvent être différents. Tandis que quand on parle de véhicules récréatifs, ben là, c'est principalement pour le loisir. Fait que c'est le plaisir qui prend le dessus aussi, là.
Oui, mais encore là, de l'autre côté de la médaille, oui, c'est le plaisir. Sauf que quand ça brise, on dirait qu'ils sont encore plus fâchés que si un auto brise. Parce que c'est leur passion, puis là, ils ne peuvent pas en faire pendant ce moment-là.
Mm-hmm. C'est vrai qu'il peut y avoir une nuance là aussi. En fait, dans quel milieu, mettons, que les vendeurs, justement, peuvent travailler, les vendeurs de véhicules, on va le dire là-bas, peuvent travailler, puis est-ce qu'il y en a qui sont un peu plus connus ou méconnus, tu sais, qu'on connaît un peu moins, mais que ça pourrait être une place où est-ce que où est-ce que tu pourrais travailler, mettons?
Il y a beaucoup de places où on pourrait travailler dans ce domaine-là. Mais encore là, moi, je reviens à mon histoire de passion. Là. Tu sais, j'aime la marque Skidoo, j'aime la marque BRP. Je dis pas que les autres sont pas bons, c'est vraiment pas ça que je veux expliquer aujourd'hui. C'est juste que je travaille dans la marque BRP depuis 2008 de façon intermittente ou de façon différente. Puis, je me verrais pas aujourd'hui aller dans une autre marque parce que si vous saviez tout ce qu'il y a à apprendre pour être en mesure de vendre quelque chose à quelqu'un, il y en a que c'est facile, on fait la joke avec « te donner un coup sur le pneu puis c'était fait », mais il y en a d'autres qui sont très techniques puis il faut être en mesure de répondre à leurs questions. La charge à apprendre est énorme dans ce genre de véhicule-là puis il faut être à jour.
Tu l'as un peu nommé là, par l'entremise des autres questions précédentes. Qu'est-ce qui t'a amené principalement dans ce domaine-là? Hein?
En fait, c'était vraiment mon envie de travailler dans la vente, de travailler dans avec le client pour arriver à quelque chose qu'on travaille ensemble. Je suis aussi un gars qui est très manuel, fait que c'était facile pour moi de me trouver des emplois pour aller faire des tâches, mais je voulais pas travailler dans une usine. Pour moi, c'était incompréhensible de passer 40 heures par semaine dans le même petit pied carré. J'arrivais pas à comprendre comment quelqu'un pouvait faire ça. Fait que je me suis rapproché des bonnes personnes au bon moment. Quand j'ai commencé officiellement la vente, à part quand j'ai fait de l'auto, puis que j'avais pas aimé ça. Quand j'ai commencé officiellement la vente, c'était quand j'étais à la TUC. La propriétaire de la radio locale est venue me chercher. Puis j'ai travaillé pendant 3 ans comme vendeur de publicité. Ça a commencé comme ça, puis par la suite, j'ai resté dans ce domaine-là.
Donc, c'est vraiment la passion pour justement le public puis la vente là, qui t'a amené là.
Oh oui, j'ai toujours eu de l'entre-gens, j'ai toujours eu une facilité à approcher les personnes, facilité à communiquer. C'est sûr que mes formations en théâtre, en improvisation m'ont amené là aussi. Là. C'est tout ça qui a fait que, pour moi, c'était devenu une évidence de travailler dans le public.
Si tu avais à mettre le doigt sur la chose que tu apprécies le plus dans ton travail, ça serait quoi?
Aller me promener en skidoo. Mais c'est vrai, on aime notre job. Souvent, on choisit ce domaine-là parce qu'on trippe. On veut en faire. On veut en faire le plus souvent possible. Mais je peux vous dire que tous ces tripeux-là qui travaillent avec moi, on doit être ceux-là qui en font le moins. Mais ça fait partie de notre job aussi parce qu'il ne faut pas juste les apprendre théoriquement, les véhicules. Il faut les essayer. Il faut être conscient de ce que c'est.
Donc, il y a une portion de, vous devez connaître les produits qui arrivent en magasin. Donc, est-ce qu'il y a une portion de votre travail que vous êtes appelé à partir là, une heure avec un modèle pour aller l'essayer là, dans les circuits? Ou
ça se fait pas sur mes heures de job, mais ça se fait sur mon temps de fin de semaine. Puis je le fais avec plaisir. Puis oui, ça fait partie de mon travail parce que je dois les apprendre, mais c'est vraiment le bout le plus léger à apprendre. Puis aussi, quand un client y arrive, il y a un trouble avec son skidoo, des fois, je vais le prendre, je vais aller faire un petit rond, au moins voir c'est quoi pour pouvoir l'expliquer. Fait que ça aussi, c'est le fun. Mais il y a plein de choses le fun, mais ça, c'est le plus le fun.
Puis, en contrepartie, là, est-ce que tu serais en mesure de cibler quelque chose que tu aurais aimé savoir avant de débuter le métier? Un élément là qui t'a surpris ou tu sais qui a représenté une embûche là, quand même au niveau du métier?
Le COVID? Oui, exactement. Ça a changé notre métier complètement. Cette année, à toutes les années, on a une vente du printemps pour les skidoos de l'année d'après. Puis habituellement, on cherche des arguments pour faire signer les clients. Cette année, on cherche des arguments pour qu'ils signent en connaissance de cause. On ne signera pas tout le monde. Parce que cette année, au moment où on se parle, on est rendu le 18 janvier. Puis on a au-dessus de 100 clients qui n'ont pas reçu leur skidoo cette année. Et là, ils ne sont pas contents. Là, on vit des pressions. BRP vit des pressions. Quand ça va être le temps de signer, ça va être en conséquence, en connaissance de cause. Puis ceux-là qui ne sont pas à l'aise avec les conditions qu'on va offrir, on ne les signera pas, c'est tout. On est rendu là. Le pouvoir de négociation n'existe plus.
Donc, en connaissance de cause par rapport à la COVID, parce qu'il y a comme un creux entre ce que les compagnies peuvent produire versus la demande. Donc, en connaissance de cause, tu veux dire que si quelqu'un, un client signe cette année, c'est possible qu'il y ait une partie de la saison qui va suivre, tu sais, l'hiver 2023, mais que la personne reçoive son véhicule au mois de février, là.
Oui.
C'est un peu ça? OK.
Oui, exactement. Cette année, j'en ai qui vont le recevoir au mois de février. Donc, chaque client qui va signer avec nous, on va lui dire que ça arrive entre telle date et telle date. Puis cette année, ben, l'année prochaine, les dates vont être tirées 2 mois versus avant le COVID.
Puis, en termes de qualité, tu dirais que c'est quoi les principales qualités à avoir pour faire ce métier-là?
Ça prend de l'entregent. Ça prend de l'écoute. Ensuite, ça prend une capacité à travailler en équipe. C'est pas toujours facile de faire le lien entre chaque. On a chacun nos pressions, surtout dans cette période COVID. Ça prend de la patience. On n'a pas toujours des clients qui sont faciles. Puis, faut comprendre qu'ils ont payé comme les autres. Puis, des fois, ils sont plus difficiles à contenter, mais on y arrive. Fait que je pense que c'est ça les meilleures qualités à avoir pour un vendeur.
Puis, en termes de valeurs, est-ce que tu seras en mesure de nous cibler quelques valeurs qui sont en lien avec ton métier?
La passion de tous ces véhicules-là, le plaisir de faire plaisir aux clients aussi. Quand ils reçoivent leur machine, surtout quand ça fait un an qu'ils attendent après un cadeau, puis que tu les appelles pour leur dire qu'ils l'ont, ça, c'est tout qu'un plaisir. Eux autres aussi sont contents.
Dans ton métier, est-ce qu'il y a des possibilités d'avancement ou de promotion?
En fait, dans le domaine de la vente, l'avancement, il n'y a pas grand-chose, mis à part quelqu'un qui voudrait s'en aller vers un poste de directeur. Les avancements, par exemple, c'est que plus longtemps tu es au même endroit, dans la même marque, plus tu vas te faire de clients. Donc, plus tu as de clients, plus tu vas avoir de travail, plus ça va être rentable parce qu'on est payé à la commission. Moi, ça fait trois ans que je suis là. J'en ai un, ça fait 5 ans qu'il est là, puis ça paraît. Il y a une différence. Les clients vont vers lui, ils sont habitués, ils le connaissent. Moi, je suis encore en train d'aller chercher des clients. J'en ai plusieurs qui me reviennent chaque année. Mais plus les années vont avancer, plus je vais en avoir. Donc, l'avancement, c'est le fait d'être connu dans le métier.
Donc, il faut être quand même relativement patient pour se faire une clientèle, puis développer ça là, au fil des années, fidéliser la clientèle aussi.
Oui, c'est pour ça que c'est important d'en prendre soin. Moi, à toutes les fois que je vais à mon client, je dis je vais être avec vous à partir de maintenant, à la prise de possession, puis après votre achat. Je vais être encore là pour vous. C'est ce qui fait la différence que lorsqu'ils veulent changer le véhicule, ils vont revenir me voir. Si je le vends, je m'en occupe plus, je me souviens pas d'eux autres. Il va toujours falloir que je pogne des nouveaux clients pour que ça fonctionne.
C'est toujours à recommencer, autrement dit, là.
C'est ça. Quand tu donnes du service à tes clients, ça se parle. Le monde les clients qui vivent dans ce genre de choses-là, dans soit les VTT, les skidoo, c'est comme une petite communauté, ils se connaissent tous dans le ZEC sur le lac, puis ils se parlent tous, hey, c'est qui ton vendeur, moi c'est lui, il a fait telle affaire pour moi, fait que ça fait du bouche à oreille, puis plus longtemps tu es à la même place, plus il y a de monde qui vient vers toi que tu connais pas.
Au niveau du placement, est-ce que tu considères que ça a été relativement facile ou difficile de te placer dans ce milieu-là, puis qu'est-ce qui a facilité ou qu'est-ce qui peut nuire aussi là au placement?
C'est sûr que c'est important de savoir c'est quoi la vente. C'est pas juste parler avec le client. Je dirais qu'une formation, une bonne formation de vente, c'est important avant de rentrer dans ce domaine-là. Je peux dire aussi que ça prend de la maturité puis de la sagesse pour rentrer dans ce domaine-là. Parce que pour l'avoir vécu lorsque je travaillais dans l'automobile, je pouvais recevoir une paye en une semaine, on va dire des chiffres fictifs, là. Alors, je pouvais recevoir 2 000 $ pour une semaine de paye. Mais après ça, je pouvais passer les 3 autres semaines du mois avec mon salaire de base de 200 $. Alors si tu n'as pas de sagesse, tu n'es pas patient, tu dépenses ta grosse paye quand elle arrive, le reste du mois, c'est difficile. Donc, ça prend tout ça, plus des connaissances, puis beaucoup d'écoute.
Parce qu'on, dans le fond, dans ce domaine-là aussi, il y a une commission, j'imagine, qui est rattachée aux ventes. Fait que c'est un peu à ça que de ça que tu parlais, là. Tu sais, ça dépend. Au début, quand on commence, bon, on fait nécessairement moins de ventes parce qu'on a moins de clients au début pour bâtir sa clientèle. Fait que le salaire peut varier d'une semaine à l'autre sans que ce soit. Ça prend quand même du temps avant que ça se stabilise. Puis tu dirais que ça prend environ combien de temps avant que ça se stabilise?
Quelqu'un qui commence, que c'est sa première emploi là-dedans, ça peut prendre un an, je dirais, avant de se stabiliser puis de comprendre qu'il ne faut pas partir en fou avec une paye. Il faut être conscient que ce ne sera pas toujours cette paye-là. Ce n'est pas une paye fixe. Le salaire de base, il donne à peine pour être capable de survivre. Donc, il faut travailler puis il faut être conscient puis y aller tranquillement.
On arrive à la fin de notre entrevue. Déjà, la dernière question. On l'a effleuré un petit peu tantôt, ben quand même pas mal, là. On a parlé un peu justement des délais là, par rapport à la COVID et tout ça. Est-ce que justement la situation avec la pandémie a eu d'autres effets sur ton travail que celui-là ou principalement ça tourne autour de ça?
Bien, il y a eu les effets, comme je vous ai dit, la demande est rendue très, très forte. Comme j'ai parlé aussi, il y a des pièces importantes de véhicules qui n'arrivent pas avec les véhicules, donc on ne peut pas les livrer. J'ai aussi des accessoires qui n'arrivent pas, comme par exemple, j'ai des clients qui ont acheté des expéditions extrêmes qui sortent en version une place. Puis s'ils veulent embarquer le conjoint ou leur conjointe, ça prend le bain derrière. Il est non disponible pour l'instant, il va l'être à partir de la fin mars. Donc, mes clients qui ont acheté cette année ne peuvent pas rouler à deux, malheureusement. C'est que ça, j'ai des téléphones pour ça chaque semaine.
En fait, c'est pas mal ce qui conclut notre discussion aujourd'hui. On te remercie beaucoup là, d'avoir répondu à nos questions. Je pense ça nous a permis de faire un beau tour d'horizon là, au niveau de ton métier. Puis c'est très généreux de ta part. Merci beaucoup.
Merci à vous deux, ça m'a fait plaisir.
Au nom du Carrefour Jeunesse Emploi et d'Accès Travail Portneuf, nous tenons à remercier tous nos invités ainsi que tous nos auditeurs. Au plaisir de vous revoir dans un prochain balado, restez à l'affût!